Merci patron.
Merci patron.
Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Alors, comme c'est annoncé par ce morceau, on va maintenant parler de travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien avoir à raconter en tant que féministe par rapport au travail? La question de l'émancipation par le salariat, la question du travail invisible des meufs et du fait que la reproduction de la force de travail se fait par certaines personnes dans le capitalisme et dans le cadre hétérosexuel, ou un peu chacune notre rapport au travail. On va essayer de faire un mélange de tout ça. Et on va commencer par écouter un montage.
Voilà. Wow. Ouais, cool.
Pour moi, c'est un travail. J'aimerais pas dire que c'est un travail comme un autre, parce qu'effectivement, il renvoie à certaines choses qui, dans la société, sont des choses plus ou moins taboues, mais des choses qui sont intimes. Mais ça reste un travail et un moyen de subsistance.
Comme les clients ont peur de se faire serrer par les flics, les TDS sont contraintes de se cacher de plus en plus, donc de s'isoler de plus en plus. Et plus on est isolé, plus on est vulnérable.
Ça s'appelle comment ce coup?
Le coup de chute.
Un dernier. Après que je fais un petit cours d'autodéfense avec Pecha, un client m'a strangulé. Et je, avec la technique que j'ai appris avec Pecha, je me défendu. Merci à Pecha parce qu'il m'a donné un petit truc pour je me défendre.
La fâche. Wow. You're fucking strong. I don't want to fight with you.
Si vous deviez vous mettre à un endroit de la pièce qui est le plus sécure pour vous, où est-ce que vous iriez?
C'est pas en danger.
Stop.
Parce que casser un genou, c'est pas si compliqué, finalement, techniquement. Mais se sentir légitime à le faire, ben, c'est beaucoup plus dur.
Alors, sur le plateau, nous sommes plusieurs personnes avec des rapports différents au travail et qui bossent dans différentes structures et même dans différents pays. Et du coup... Est-ce qu'il y a une d'entre vous qui a envie de raconter ce que c'est son rapport au travail?
Ah, je vous sens, mais tellement bien pour parler du travail.
C'est vendredi soir. Hein. Bah, je me lance.
On aime, alors première question, on aime ou on n'aime pas son travail? Allez.
Ah, moi je kiffe mon taf.
Fayette.
Non, en vrai, dans la vie, moi je pensais pas que j'allais avoir un travail que j'allais pouvoir aimer. Je pensais pas que ouais on estimait pas forcément que j'allais avoir un taf que j'allais aimer, c'était plutôt un taf où il allait falloir juste pour bouffer en fait, comme mes parents ils avaient juste pour se nourrir, mais c'était pas un truc où on allait, et moi en fait j'adore ce que je fais, je kiffe le matin me réveiller, voir les gens, ouais moi j'aime bien.
Tu fais quoi?
Je suis formatrice pour adultes en compétences de base. Et pour des personnes qui sont en situation d'illettrisme ou situation d'analphabétisme ou français langue étrangère. Et moi, j'adore ce que je fais.
Ok.
Eh ben, je prends le relais parce qu'on est collègues. On est collègues de vie, collègues de travail. Ben moi, j'adore le travail, mais j'adore et je déteste. Donc, on travaille dans la même structure, mais moi, j'ai une fonction, on va dire, un petit peu à responsabilité. Et ça crée des fois un hiatus entre le sens de notre travail qui est un travail très beau et notre structure qui est une très belle structure, et puis le fait que ça prend tout mon temps. Voilà.
Eh bien, moi, je pense que j'ai un rapport au travail, on pourrait dire cyclique, où parfois j'adore et parfois j'aimerais, enfin, je déteste et j'aimerais ne pas le faire. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des périodes où j'ai travaillé, des périodes où j'ai pas travaillé.
Et tu fais quoi comme travail ?
Eh ben, je suis médecin, voilà, à l'hôpital à l'heure actuelle.
Moi, je travaille dans une ONG au Maroc. Dans la gestion de projet. J'aime pas mon travail, mais j'aime le côté émancipateur. Ça permet d'avoir de l'argent pour être indépendante. D'un autre côté, c'est toute une problématique, le sens du travail en ONG, voilà, au Maroc.
Alors moi, je suis censée animer. Mais ça me tient quand même à cœur ce sujet, puisque je trouve que le rapport au travail, c'est un peu compliqué. Moi, je suis contente parce que je suis avec ma coloc qui est médecin. Et moi, je suis infirmière. Compliqué d'habiter ensemble et, et d'avoir ces deux rapports-là. Et en même temps, intéressant. Mais moi, j'aime mon travail depuis 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans, je sais que je voulais être infirmière. Et pourtant, c'est la grosse déception. Voilà. Compliqué. C'est dur de dire que j'aime pas mon travail parce que je travaille avec des patients et des patientes, donc des humains. Et pourtant, la hiérarchie me pèse beaucoup. Donc, un peu compliqué quand même, en tout cas, le travail salarié, salarial, je sais pas comment on peut dire. Voilà.
Et moi, je n'ai pas de salaire. Alors, je ne sais pas si je dois dire que je ne travaille pas. Des fois, j'ai une activité qui me prend toute la journée, dans laquelle il y a du plaisir et aussi de la contrainte. Mais en tout cas, je n'ai pas de reconnaissance par le salaire. Voilà. Je me suis spécialisée dans le travail invisible pour groupe.
Une catégorie du dictionnaire, voilà. Catégorie socio-professionnelle.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios.
Et c'est la journée des femmes.
Mais c'est aussi les 10 ans et demi de Lilith, Martine et les autres. Et on n'est pas des cadeaux.
Ouais. Yeah, ouais.
C'est la folie de l'enfer dans les studios. C'est marrant ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à votre rapport. Toi, t'es infirmière et toi, t'es médecin et que vous habitez ensemble. Parce que nous deux, en fait, on bosse quand même dans la même association. Et on n'a pas le même statut hiérarchique. Donc, c'est sûr que ça fait voir les choses à des moments d'une manière différente. Et ce qui est un peu chaud à l'heure actuelle dans les associations, c'est les contingences extérieures, politiques. D'où vient l'argent, comment on fait. Et qu'en fait, on nous demande de plus en plus à l'extérieur de qualité et de rendre des comptes, etc. En oubliant des fois l'argent, il oublie un peu le cœur de notre métier aussi. Ouais. Et ça, je trouve que c'est pas évident. Des fois, garder un peu, tu gardes la foi un peu dans ce que tu fais, mais t'as quand même ce truc-là où tu dis, ok, bon, il faut signer à 100, justement, avec ça.
Ouais, c'est un peu l'inverse, je pense, de quand tu travailles, quand t'es, je sais pas, fonctionnaire hospitalier, où c'est vraiment le cas de la hiérarchie, quoi, ce que tu pointais tout à l'heure. C'est plus interne, la contrainte elle est interne parce que c'est un système très hiérarchisé. Nous, on est quelque part un peu émancipé de ça parce qu'au sein de notre structure, on a des contradictions, tout ça, mais on a quand même la possibilité de dire ce qu'on pense. Mais par contre, on est pressuré par l'extérieur qui fait que on n'a pas toujours le loisir de faire tout ce qu'on voudrait faire pour les publics qu'on accueille. Et je ne sais pas, par rapport à l'ONG, moi, ça m'intéresserait que tu dises qu'est-ce qui te pèse dans un travail comme ça. Parce que je trouve qu'il y a aussi, dans tous les boulots là, qu'on a évoqués, il y a une forme d'utilité, quand même. Après, on pourrait dire trouver que tous les boulots, ils sont utiles, mais il y a quand même une forme d'utilité, de rapport aux autres. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu dis que tu n'aimes pas ton travail? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour toi, ce travail-là?
Je crois qu'il nous faut plus qu'une
émission radio pour l'expliquer. Mince.
T'as un quart d'heure, tu peux te saisir de ça.
Après, il faut replacer les éléments dans leur contexte. J'imagine que le travail en asso ici est différent d'un travail en ONG au Maroc, parce que ça implique des problématiques coloniales, des questions de fond qui sont cherchées ailleurs, notamment en Europe, avec un personnel expatrié et nous, un personnel national. En fait, ça crée des disparités. On est aussi assigné à une injonction de résultats, donc beaucoup de pression après justifier pour montrer un peu à quel point le projet est réussi. Et parfois, comme tu disais, en fait, des fois l'argent en fait fait que j'ai l'impression qu'on s'écarte du pourquoi on est là. Donc voilà.
Tu peux expliquer un peu cette différence quand tu dis qu'au sein des ONG au Maroc, par exemple, tu as la notion d'expat et j'imagine tu as la notion aussi natif, c'est ça ?
Le personnel national.
Personnel national. Et ça met quoi en place, en fait, un peu ?
Bah, différentes problématiques. Il y a une ONG qui a travaillé sur ce sujet en parlant d'interculturalité.
Okay.
En fait, il y a vraiment un gros fossé entre les personnes qui travaillent au Maroc et les personnes qui viennent travailler en tant qu'expatriés européens. Et donc, en fait, soit en termes d'avantages salariales, de rapport de hiérarchie, de pouvoir, t'as tout constamment des personnes expatriées qui sont supérieures à des personnes... Et puis on se coltine des remarques sur les compétences, en fait. Quand tu as des personnes salariées, expatriées, elles viennent un mois, deux mois ou un an, et tu as un staff national qui est là depuis des années et qui subit, en fait, une méconnaissance du contexte des personnes qui viennent d'ailleurs et un regard hautain et dénigrant du travail qu'on fait. Ça, c'est une question, c'est des problématiques que j'ai expérimentées pendant des années. Ça fait 13 ans que je suis dans le domaine et dans différentes ONG.
Ah. Qui y va? Non, mais du coup, c'est parce que des fois, moi, je me pose toujours la question de est-ce que c'est le travail ou le statut de salarié qui crée, en fait, la problématique, quoi, le fait qu'on puisse se sentir mal au travail? Ou est-ce que c'est quand même lié au travail qu'on fait et au contexte? Parce que tu vois, dans ce que tu dis, je trouve que si c'était une asso ou une ONG, par exemple, où il n'y avait pas d'expatriés, est-ce que peut-être, toi, tu trouverais plus de sens ou plus de facilité à y travailler? Ou est-ce que tu penses qu'il y a aussi un truc qui est lié, en fait, au travail en lui-même, quoi?
Ben, les rapports de pouvoir existent en tant qu'employeur-employé, et ça en rajoute, en plus, en tant que staff qui travaille ensemble, comme j'ai expliqué, et aussi cette question de fond, d'argent qui vient donc d'Europe.
Ouais, de répartition inégalitaire, quoi.
Voilà, ça en rajoute. En plus, je voulais ajouter aussi, ça me crée un conflit en tant que personne politisée, que j'ai l'impression, des fois, ça dépossède les personnes concernées de leur lutte.
Et par exemple, vous pouvez nous expliquer un peu dans le milieu hospitalier un peu comment ça se passe? Parce que j'imagine que d'un point de vue hiérarchique et du rapport au travail, c'est quand même assez particulier. Surtout que maintenant, les DRH, c'est devenu vachement un système de management et des choses comme ça. Donc le rapport au travail et aux patients et aux patientes, c'est vachement différent, non?
Oui. Alors, je pense que... La hiérarchie, elle s'exprime à plusieurs niveaux. Et effectivement, en tant que médecin, je suis peut-être pas la meilleure placée pour en parler, parce que moi, en tout cas au sein d'un service, je suis plutôt, entre guillemets, dans le haut de la hiérarchie. Et je pense que d'ailleurs, c'est une espèce de frustration de la part des médecins d'avoir perdu... En fait, initialement, ils étaient un peu dans les places décisionnaires dans beaucoup de choses. Et maintenant, ils sont plutôt... Enfin, tout ce qui est admis... Gestion et administration a été laissée à des professionnels de l'administration et ils sont plus du tout, très peu en tout cas, appelés sur ces questions-là. Donc il y a cette petite frustration d'avoir perdu du pouvoir. Et après, moi je trouve qu'elle se trouve en tout cas à plusieurs niveaux aussi dans le rapport aux soins et le rapport aux patients, où même si on essaye de se dégager d'un rapport, en tout cas moi j'essaye de me dégager dans un rapport du médecin, de sachant, soignant, vis-à-vis des personnes concernées. L'institution en tant que telle met les personnes dans cette position-là et c'est très dur d'en sortir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez gênant, je trouve. Et je ne sais pas si on peut... Si sortir de l'institution permet de sortir de ce rapport-là qui existe, je pense, dans la fonction même du soin, parfois.
Et dans votre vécu, en tant que, justement, à des postures très différentes, quoi, parce qu'après, on aurait pu aussi inviter une aide-soignante ou une ASH, ça aurait été bien. Mais je ne sais pas comment, justement, quel vécu différent vous avez toutes les deux, comme vous vous connaissez bien, et j'imagine vous en parlez, de cette hiérarchie. Parce que moi, je sais, j'ai une image des hôpitaux où c'est vraiment les blouses blanches ensemble, les blouses vertes ensemble, les blouses roses, je ne sais pas quoi, là, j'ai des couleurs au pif. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce qu'entre vous, des fois, ça provoque des discussions?
Je sais pas.
Je veux pas foutre la merde.
Foutre la merde entre nous.
Et nous sommes en direct.
Les collègues vont se briser à cause de ce débat.
Tu déménages ou je déménage? Non, après, nous on en parle, mais je pense qu'on est assez d'accord un peu sur cette posture-là. En fait, moi, ce qui est fort, je trouve, dans le travail hospitalier, c'est vraiment que. Je me dis comment c'est possible qu'on ne voit pas, comment c'est pas visible qu'il y a une classe sociale, mais c'est énorme, tu vois, c'est visible en fait. Tu passes de l'ASH, l'aide-soignant, tu remontes comme ça et hop, directeur et blablabla. Et ça, moi, ça me choque qu'en fait, ça soit jamais visibilisé, qu'on remarque pas qui en fait fait le taf d'ASH, qui est aide-soignante, etc. Après. Je pense que toutes les deux, on en parle assez souvent, parce que je pense que ça nous casse bien les pieds, en fait. Moi, j'ai mal au dos, tout le temps, en ce moment. Et moi, j'ai quitté l'hôpital pendant un moment, et là, de revenir, même si c'est pas directement dans l'hôpital, mais en tout cas, de revenir dans l'institution, eh ben, c'est un peu hardcore. Mais parce qu'en fait, vraiment, on sent bien qu'aujourd'hui, ceux qui managent, c'est plus forcément des cadres de santé infirmiers. Ça peut être un cadre de santé qui sort de je ne sais où. Genre, juste, il sait juste en fait comment ça marche. Il va gérer des budgets. Et en fait, ça, il peut avoir ce poste-là parce qu'il sait gérer des budgets. Et donc, les réflexions qu'on a tous les jours, c'est ah, mais vous faites ça? Ah, mais je savais pas que vous faisiez ça. Bon, mais c'est un peu... Oui, c'est ce que je fais, oui, c'est mon travail. Et ça, c'est un peu pénible, en fait, toute la journée. Mais ce qui est un peu pénible... Ouais, il y a ça qui est pénible, mais ce qui est pénible, c'est en fait de vraiment voir qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Moi, en tout cas, j'ai plus de marge de manœuvre. C'est vraiment... j'ai beau faire semblant. Alors, ma chef, elle a beau faire semblant de m'écouter. Alors, je vous écoute. Oh, bien sûr, pas de problème. Elle note, comme ça, toute la journée. Sauf qu'après, derrière, elle nous pose un truc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit. Parce qu'en fait, tout simplement, l'ARS pose des... Il y a des quotas, il y a des trucs, il y a des
L'Agence régionale de santé.
L'Agence régionale de santé. Et donc, il faut, en fait, le faire à la fin de l'année. Donc, en fait, il y a vraiment un truc... Le capital, il est important. On n'en a rien à faire de ce qu'on fait. Aujourd'hui, l'hôpital... alors moi, je me dis, c'est un endroit où j'ai l'impression qu'on est énormément exploité. Et en fait, les patients sont les... Bah, en fait, ils voient pas il y a pas de fruits, quoi. Il y a rien qui est produit à la fin. Mais l'hôpital psychiatrique, et ben c'est là où on voit vraiment que, et ben qu'il y a énormément de choses. En fait, on fait plein de petites réductions à la con là sur l'hôpital public, quoi. Sur l'hôpital psychiatrique, quoi. Aujourd'hui, je pense à Saint-Jean-de-Dieu où on enlève des savons, on enlève des trucs du quotidien. En fait, parce que il faut réduire. Par contre, l'argent, on le met dans la recherche. Comment on appelle ça
Recherche et innovation.
Ouais, mais plutôt on va.
Il y a sûr un département qui traîne.
Mais c'est plutôt qu'on va plutôt aller chercher à qu'est-ce qui fait. On va regarder au niveau du cerveau, qu'est-ce qui fait que t'as une pathologie psy. Et on va plutôt mettre de l'argent dans les recherches neuro, plutôt qu'en fait avoir du personnel qui va être là, qui va faire ce qu'il faisait avant d'entretien, de consultation et qui était nécessaire. Aujourd'hui, en fait, vraiment, clairement, on sent qu'à l'hôpital, on fait vraiment des réductions. Et l'hôpital psy, plus que les autres, même si je ne veux pas hiérarchiser, mais quand même prend cher, quoi.
Ouais, et pour compléter un petit peu ce que tu dis, on est constamment dans un espèce de truc de chiffres et de cotation des actes, de cotation de l'argent, des médicaments prescrits, etc. Et Et du coup, ça met des logiques très particulières avec dans une demande de rentabilité, voilà, et de l'investissement dans une recherche qui est scientifique avec des espèces de, comment on pourrait dire, des substrats biologiques ou avec des chiffres là aussi. Et finalement, tout ce qui est l'humain, il est pas du tout, en fait, il rentre pas dans ces cadres-là. Et du coup, c'est quelque chose qui est pas du tout investi, alors que en tant que tel. C'est pour moi, c'est le sens du soin et de quelle relation humaine on a, comment est-ce qu'on accompagne les gens. Et du coup, c'est vrai que c'est rageant parfois de voir qu'on nous dit il n'y a pas assez d'argent parce que le personnel, c'est ce qui coûte le plus cher. Et en fait, en tant que tel, tu vois qu'il y a des milliers qui sont investis dans de la recherche et qui va aussi avec une petite connivence privée-publique qui est quand même. Assez importante, et du coup il y a vraiment ce déséquilibre là et ce truc de médecine comment on dit, du vitesse qui est un peu rageant quoi.
Non vas-y.
Je voulais revenir un peu sur ce que tu parlais tout à l'heure, un peu du travail invisible aussi, de toutes les notions de travail invisible et aussi par exemple, je sais pas, je trouve que des fois je me pose un peu la question dans le militantisme si ça devient pas un peu un travail. Un peu dans cette notion aussi un peu de travail invisible, mais aussi que effectivement en France on a des moyens en fait de subsistance qui peuvent être utilisés, et que ça me pose un peu la question de est-ce que par exemple le militantisme devient un travail à des moments, est-ce que le fait que des fois il y a certaines personnes qu'on voit peu mais qui font plein de travail invisible et qu'on met jamais en valeur, je sais pas, ça me posait un peu toutes ces questions là.
Moi, en tout cas, des fois, j'ai l'impression d'être une gouine au foyer, quoi. Enfin, je veux dire, concrètement, quoi. Voilà, je le dis. Enfin, moi, pour moi, c'est aussi... c'est que, en fait, la reconnaissance, dans ce monde-là, elle passe vraiment beaucoup par la question salariale. Et du coup, des fois, c'est... c'est compliqué. Je veux dire, parce que, pour moi, l'enjeu du travail invisible, c'est que, premièrement, il est invisible. Et deuxièmement, il est complètement dépendant de comment les personnes à qui tu l'offres le valorisent. Et je m'en sors bien en étant gouine, c'est moins pire qu'en étant hétéra. Enfin, excusez-moi de dire ça comme ça, mais quand même. Mais c'est pas gagné à plein de moments. Et du coup, je trouve... Enfin, moi, là où ça me donne envie de poser... c'est quoi nos acharnements à la tâche en tant que personne militante? C'est comment est-ce qu'on se fabrique de la reconnaissance, en fait? Comment est-ce qu'on fait ça ensemble d'une manière un peu plus intéressante.
Mais du coup, j'entends ce que tu dis là sur le travail invisible. J'ai l'impression, moi en tout cas, vous écoutez depuis tout à l'heure, c'est plus ce truc du care et de prendre soin, et que ça a l'air d'être quand même le point commun des personnes qui sont autour du plateau. Pour moi, le travail, c'est le travail. Enfin, on peut travailler sans être salarié. J'ai l'impression que c'est ça qui distingue, c'est qu'est-ce qu'on fait pour avoir un salaire, en gros pour avoir des thunes et pour bouffer et pouvoir acheter des trucs machin, mais que en fait ça vient balayer plein de domaines différents, et que le travail invisible, pour moi, il est pas que dans le militantisme ou dans la lutte ou je sais pas quoi, et qu'il est aussi même quand on est salarié, enfin dans ce truc de prendre soin des équipes, écouter faire attention aux collègues, chouchouter machin, et que pour moi c'est, et la question du travail, elle est complexe, parce qu'en gros qu'est-ce que c'est travailler? Est-ce qu'on travaille seulement pour un salaire? Est-ce que quand on fait des trucs qui nous prennent du temps et de l'énergie, et on peut considérer ça comme un travail même quand on n'a pas de salaire? Et je parle pas forcément de bénévolat ou je sais pas quoi. Et à un moment donné, est-ce que le travail invisible, il n'existe pas aussi dans le salariat? Moi, par exemple, c'est ce qui me casse les pieds à des moments où, en fait, je suis payé pour faire un truc, mais en fait, je me tape tout le truc invisible et tout le truc de prendre soin que les autres ne se prennent pas, alors qu'ils sont... Ils ont le même salaire que le mien, voire mieux payé. Et pour moi, le travail invisible, en fait, que ce soit dans le monde salarié, dans le monde personnel, dans l'espace de lutte, il existe. Il existe.
Et puis pour compléter ce que tu dis, parce que comme on est dans une émission féministe, je me suis dit, on pourrait parler de ça. Après, moi, dans le truc du travail invisible, le militantisme comme travail invisible, moi, ce que j'entends, c'est aussi la reconnaissance sociale, peut-être dans d'autres sphères. que effectivement, quand tu as un salaire et un contrat et le nom d'un travail à dire, des fois c'est plus pratique, quoi, j'imagine, parce que moi ça fait 10 ans que je travaille, maintenant je sais plus ce que c'est de ne pas avoir ce truc-là à dire. Mais dans la question du care dans le travail salarié, c'est que je trouve que c'est super intéressant que là on représente, c'est vrai, des métiers où on est ou dans le soin, ou dans s'occuper, ou se préoccuper de quelque chose pour les autres, en tout cas, et que même dans les structures où il y a ça, où ça peut être mixte, quoi, nous dans la structure où on travaille, il y a une minorité d'hommes. Je pense si c'est hétéro, je n'aurais pas demandé si c'était hétéro, mais j'ai l'impression. Et du coup, c'est sûr que dans ce que tu dis, le soin aux équipes, etc., bah, ils sont de toute manière moins investis, avec à la marge des gens parce qu'ils ont une personnalité ou parce qu'ils ont un investissement ou un engagement militant dans la structure. Mais du coup, c'est intéressant de voir que même dans une structure où le but, c'est quand même d'accompagner les autres, et c'est quand même d'ailleurs parmi eux des personnes qui vont le faire sérieusement, c'est-à-dire on peut pas forcément dire qu'ils font mal leur taf, mais par contre au sein d'une équipe qui prend en charge, bah ça va bien sûr du café, bon ça c'est très tarte à la crème ce que je dis, mais c'est quand même vrai, quoi, ça compte, du café, à vérifier qu'il y ait le matériel disponible, à vérifier que dans les salles soient propres, etc., à s'intéresser au bien-être de la communauté de travail, quoi. Donc ouais, moi je te rejoins vraiment dans ce que tu dis.
Après, j'arrête de parler. Et aussi, moi, il y a deux trucs qui... Enfin, en tout cas, qui m'ont fait tilter là, quand vous discutiez tout à l'heure. Mais pour en revenir à ce truc de taf invisible, c'est qui le visibilise ? Parce que quand même, moi, par exemple, je bosse en cuisine, et je peux vous dire que les gars, quand ils nettoient la cuisine un peu plus que d'habitude, eh ben, ils l'ont écrit sur le tableau Véleda, on l'a entendu, etc., etc. Et... voilà, qu'il visibilise ou pas, etc., etc. Et aussi, tout à l'heure, j'ai entendu parler de passion. Bah, des fois, on taffe pas que parce qu'on est passionné, ou on taffe aussi parce que c'est notre seule source de revenus, et qu'à un moment donné, bah, ouais, on se farcit ça. Enfin, c'est pas juste, tiens, je me lève, c'est super, j'adore passer plein de temps au taf, et on peut l'aimer aussi. Enfin, moi, je pense que je suis assez au clair avec ça. Mais c'est qu'aussi, il y a plein de gens qui taffent parce qu'il y a besoin d'un salaire et que c'est la seule source de revenus. Ou c'est la source principale, et que bah, le RSA, ça fait pas kiffer, et que voilà. Enfin, on choisit pas. Oui, on choisit, mais c'est compliqué. C'est pas que la passion.
Mais tu vois, on choisit aussi. Je rebondis, pardon, excuse-moi, je crois que tu avais envie de parler. On peut choisir aussi, tu vois, ce truc de. On choisit pas. Et en même temps, à des moments, on choisit aussi de travailler à mi-temps, à temps plein. Comment tu fais pour dealer aussi avec ce truc-là, pour quand même. Pas passer ta vie au taf, en fait, aussi.
Mais ça veut dire quand même que d'un point de vue financier, il faut que tu le gères derrière, quoi.
Alors, en ce moment, tu vois, genre, j'appelle des gens pour plein de trucs, quoi. Et les gens, ils me disent, mais vous avez quand même choisi d'être à mi-temps en tant qu'infirmière. Vous avez du travail partout. Ah ouais, mais j'ai pas envie de faire ce travail partout.
Et oui, non, mais c'est ça aussi après, quoi. C'est pas comme si financièrement, après, on avait tous et toutes les mêmes solutions.
Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de réagir, mais il n'y a pas le temps après. Et sinon, il y a un truc que je trouve pas cool ou pas sain, en tout cas dans le domaine où je travaille, ONG, c'est aussi la notion de. Ben, puisque c'est une ONG, il faut que tu donnes de ton temps. En tant que salarié, tout ce que. Il faut que tu donnes plus, il faut que tu donnes de ton... Enfin, je sais pas par rapport à vous ici, mais de mon expérience, c'est des heures en plus, c'est jamais assez, et puis ça crée un truc assez vicieux, d'attente de reconnaissance ou de réprimande, parce que t'es professionnel, mais aussi tu travailles dans une asso, et du coup ça fait un truc de surexploitation, enfin d'auto-exploitation et de surexploitation. Et par rapport aux gens, en fait, je me rappelle, j'avais travaillé dans un programme de justice de genre, enfin il y a plein de termes super géniaux, tu parles, et j'avais un chef, un mec, un homme militant de longue date, avec plein de médailles ou je ne sais quoi, et qui était responsable de la question genre. Et en même temps, il y avait vraiment un harcèlement de ses employés meufs, et aussi sur les tâches invisibles, le café, débarrasser le repas et tout ça, en fait, il se posait, il attendait qu'on fasse ça nous-mêmes, enfin, plein d'autres trucs, quoi.
Et c'était un programme sur le genre ?
Oui.
Mais je trouve que là, ce que tu soulèves, c'est quand même hyper important. Parce que bah, moi, je sais pas, je vais parler pour moi dans une assoce, quoi. Mais c'est vrai que ça fait vachement ce truc où t'as l'impression que ton temps, il est... Tu peux y aller, en vrai. Ton investissement, il peut être sans fin. Mmh. Et c'est bizarre, parce qu'en plus, après, ça te fait des trucs de culpabilité, ça te fait des trucs de... Ça fait plein d'enjeux, en fait. Mmh. Et je crois que, ouais, des fois, tu peux avoir l'impression de t'auto-exploiter, ou de... Je sais pas, ça fait plein de... Ou je pense que je suis pas encore au clair, moi, avec certains trucs.
Puis après, il y a des trucs contradictoires dans tous les sens, quoi.
C'est ça.
Moi, en tout cas, ce que j'ai vécu en tant que militante dans des milieux, quand j'ai commencé à travailler, où le travail, c'était très proscrit... C'est-à-dire, tout le monde était contre le travail. Donc moi, j'ai commencé à travailler à 24 ans dans une structure. Je me suis très vite investie parce qu'elle faisait beaucoup de sens pour moi. Et du coup, c'était quand même compliqué parce que très vite, j'ai dépassé mon temps de travail. Mais dans une structure où quand même, ça m'est... Je sais pas comment dire, c'est aussi parce qu'il faut qu'on survive, mais ça m'est pas demandé par une hiérarchie formelle, etc. C'est un peu différent de ce que tu dis, toi. Mmh. Où je vois bien dans les ONG, c'est quand même un système à part, quoi. Et moi, j'ai dû souvent me justifier dans tous les sens. C'est-à-dire que c'était à la fois... maintenant, je le vis bien, parce que je m'en fous. Je suis une vieux qui, maintenant. Mais aussi, des fois, des gens qui me disaient « Mais c'est pas possible, t'es exploité. » Et moi, je disais « Bah ouais, mais nous, en fait, il faut qu'on vive notre structure. » Et moi, c'est là aussi où je trouve un sens militant, c'est aussi dans ma structure. Et en même temps, ça pose un problème, parce que ça, c'est un travail salarié, et c'est pas là où je dois mettre toute mon énergie militante, mais de fait c'est ce que je fais, parce que ma structure, il faut qu'elle survive, et moi j'ai aussi ce rôle là dans ma structure. Et du coup, bah, c'était compliqué à gérer des fois pour moi, parce que se faire engueuler entre guillemets par ses potes parce qu'on travaille trop, parce que c'est pas bien de travailler, ou parce que tu te fais exploiter, et en même temps bah quoi, toi t'es pas non plus ravi de pas rentrer, enfin voilà quoi, moi je rentre chez moi souvent, c'est 8h-8h quoi mes journées quand c'est bien, donc du coup bah c'est des fois compliqué. Maintenant j'ai un peu réglé la contradiction parce que j'assume ce côté-là. Mais c'est vrai que quand tu parles d'auto-exploitation, moi je me reconnais assez bien, et en même temps le terme d'exploitation il me convient pas, parce que je trouve aussi un sens politique dans mon travail que j'ai pas tout le temps trouvé, ou en tout cas un autre sens politique que ce que j'ai pu trouver dans le milieu militant. Donc c'est complexe.
Ouais. Et, non mais c'est super intéressant de travailler, parce que je trouve que ça fait rebondir sur plein de trucs, parce que moi ça me fait penser aussi à comment justement j'ai toujours dealé un peu avec ce truc de oh là là l'hôpital j'aime pas, donc je fais tout pour m'en extraire un peu, je travaille et puis très vite je travaille pas pendant un an et demi. Et maintenant que je trouve un sens, en fait, puisque je travaille dans un lieu où c'est des personnes, où c'est avec des personnes SDF, précaires, ben en fait ça me fait penser un peu au milieu militant. Ça me fait penser un peu à ce que je fais déjà à l'extérieur. Et donc je me dis, comment je deal ce truc de... moi, à l'inverse, j'ai envie de ramener des trucs du militantisme dans mon travail. C'est-à-dire, comment on deal ce truc de... on est une petite équipe, on est, je pense... 6 meufs, un truc comme ça. Je suis trop contente, il n'y a que des meufs. Mais tout le monde dit, oh, il n'y a pas de gars. Ben, justement. Mais comment on deal ce truc de il n'y a pas de gars, ok, ça marche. Comment je fais? Parce que moi, en fait, c'est évident, ça ressemble à un truc du militantisme. Donc j'ai envie de dire, comment on fait là? Parce que comment c'est évident qu'on n'ait pas des rapports horizontaux, pardon. Comment on fait pour pas recréer le militantisme dans notre travail? Parce que ça devrait être logique, voilà.
Tout est super intéressant.
Si chaude, si pleine de vie. Et pourtant, elle s'éloigne déjà de vous. C'est la cruauté ultime de la vie. Elle vous donne le goût de la jeunesse et de la vitalité. Et ensuite, elle fait de vous le témoin de votre décrépitude. Ben oui, c'est la loi de la nature. On s'en fout de la loi de la nature.
Radio Canu, la plus rebelle des radios, 102.2.
Lilith, Martine et les autres. On n'est pas des cadeaux. Faites-leur 10 ans et demi. Yeah.
L'enfer continue.
Et on aura envie de rebondir encore sur plein de choses autour de la question du travail de soins et tout ça. Mais on va laisser place à la suite. Et la suite, c'est un morceau de musique de Mia.
Mia.
Bonjour Mia.
Eh ben, merci beaucoup d'être venue témoigner et raconter tous ces trucs sur le travail.
Parce que le travail, c'est la santé.
Ne rien faire, ça la conserve.
Et peut-être, faut dire que pour une de nous, c'était la première fois à la radio aussi. Ça fait plein de premières fois pour, ouais, pour ces 10 ans et demi.
Bravo. Trop bien.
C'est pour la première fois.
Un certain charme. Un certain drame. Des dizaines et des dizaines retrouvées au bord d'un fleuve, sous un saule. Pas un seul ne pleure, pourtant. Le courant draine les larmes de millions, mais pas un seul, plus un seul ne pleure, autant. Que nous sachions, le temps jamais ne défait l'horizon. Et il court, et il marche, sur nos corps défaillants. Un certain drame, remis en question. La moitié meurt, l'autre se détourne. Indifférent, du cortège noir aux yeux révulsés, lassé du chemin des croix, des attitudes empruntées. Là-bas c'est si haut, la pente vertigineuse, le ciel s'ouvre comme une plaie, avale les peaux de chagrin tombées par erreur. Les doigts égrènent les siècles un à un, la commissure des lèvres souillées par l'horreur. Violette. Bleues, grises, elles articulent dans un dernier soupir. Justice. Le souhait d'un lâcher prise, d'un envol possible, vers là-bas, chez moi, chez nous, de choisir la couleur du sol que foulent nos pas, libres, la terre rouge débarrassée du sang versé, des vainqueurs supposés d'une histoire tronquée, chasser la froide pâleur des plaines millénaires, qui abritaient tant de forêts, désincarner leur visage de l'autorité, censé nous éduquer, nous domestiquer, déraciner leur savoir-faire meurtrier, de nos côtes flanquées, de leur tendre commerce négrier. La fêlure de nos crânes, causée par la douleur du fouet, le sifflement à nos oreilles des discours aseptisés, du costume à l'uniforme, du cadre à la norme, population plongée dans l'ivresse, du pouvoir à deux vitesses. Balancé par la rhétorique d'une petite musique, chantant les louanges d'un peuple consentant, du pire pour le meilleur, tous vêtus de blanc, un casque en guise d'auréole, des papiers pour validation. Et nous, plongeant dans la mer, explorant les fonds marins, reliés par les chaînes qui nous enserrent les pieds et les mains, solidaires du corail et des créatures invisibles, nous nous battons pour la vie et l'avènement des possibles. Nous devenons poissons colorés, remontant les courants qui drainent les larmes de millions. Et pourtant, pas un seul, plus un seul ne pleure. Parce que tu es là, parce que nous sommes là. Autant que nous sachions, le temps jamais ne défait l'horizon.